Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. La Tunisie, en proie à une grave crise financière, prévoit de revoir les subventions étatiques aux produits de base. Premier tour des élections législatives dimanche prochain en France. Entretien dans votre édition avec Philippe Benassaya, candidat de la droite et du centre dans la 11e circonscription des Yvelines. Ce sera samedi soir prochain à l'hôtel La Louisiane, dans le 6e arrondissement de Paris. La chanteuse, poétesse et peintre Sappho lira aujourd'hui Journal au bord, un recueil de poésie aux éditions Bruno Doucet. Sappho sera l'une de nos invitées. Célébrer Beyrouth et sa communauté créative, l'objet de la soirée No Jet Lag Party. Ce jeudi soir à Paris, nous écouterons son organisatrice, Alexandra Sénès. Le préfet de police de Paris reconnaît un échec de la gestion policière près de 2 semaines après les incidents et les violences survenues au Stade de France à Saint-Denis. Après sa victoire face à l'Ouganda lors de la première journée de qualification de la CAN 2023, l'Algérie s'est imposée face à la Tanzanie pour la 2e journée du groupe F. Victoire 2-0. La Tunisie, confrontée à une grave crise économique et financière, prévoit de réviser les subventions aux produits de base. Le ministre de l'Économie indique que le programme de réforme du gouvernement vise principalement à remettre les finances publiques sur une trajectoire de soutenabilité et à créer les conditions de croissance économique. Le gouvernement tunisien avait officiellement renouvelé en novembre sa demande d'aide du Fonds monétaire international, le FMI, qui conditionne son aide à la mise en œuvre d'un programme de réformes économiques et structurelles. Les élections législatives en France, premier tour dimanche prochain, entretien avec Philippe Benassaya, candidat de la droite et du centre dans la 11e circonscription des Yvelines.
Il y a une partie plutôt nationale et une partie plutôt locale. Alors au niveau national, comme vous le savez, j'ai été élu il y a moins de 2 ans et j'ai dû un peu rattraper le rythme de mes collègues, dont j'ai travaillé beaucoup plus en moins de 2 ans, puisqu'il fallait vraiment se plonger dans les dossiers. Donc notamment, j'ai présidé la commission d'enquête sur les prisons, c'était important pour réformer la prison française. Et puis j'ai déposé hausse proposition de loi sur les polices, sur la sécurité, sur la situation des veuves et des veufs en France, également sur l'utilisation des chiffres romains dans les musées, mais également sur les morts pour la France dans les cimetières, également pas mal de choses pour les étudiants, pour les exonérer de la contribution campus pendant la crise sanitaire. Donc vous voyez, il y a beaucoup de sujets, et surtout, et là je glisse sur le local, j'ai beaucoup travaillé sur la question des transports, parce que dans la circonscription, c'est d'abord la 11e circonscription, c'est un sujet important. Les transports, ça concerne tout le monde, et j'ai fait pas mal de propositions sur ce sujet pour améliorer la fluidité des transports dans notre territoire. Et puis bien sûr, j'ai accompagné plusieurs projets, notamment la création d'un nouveau commissariat à Élancourt, ce qu'on appelle nous le commissariat du futur. Et puis également, j'ai accompagné aussi la rénovation urbaine au Bois de l'Étang, par exemple, à la Verrière, ou les petits prés à Élancourt. Je pourrais multiplier, j'ai peur d'être ennuyeux, mais je pourrais multiplier plusieurs sujets locaux, hein, puisque j'ai reçu plus de des centaines d'habitants dans ma permanence, où j'ai dû régler des problèmes à la fois de voisinage, des problèmes de transport, des problèmes d'emploi, voilà. Le député, c'est cela, c'est un pied à Paris, un pied sur le territoire, de terrain, j'agis là où je vis. Et donc c'est assez important pour moi d'être proche des gens. Je l'ai été avant comme maire, donc c'est une continuité en fin de compte.
Et quelles sont vos priorités pour ce nouveau mandat, Philippe Benassaya?
Alors les priorités, la première, je pense que c'est indéniablement le pouvoir d'achat. Je pense que le pouvoir d'achat s'est détérioré depuis le début du premier mandat du président de la République avec la crise énergétique, la crise des gilets jaunes. Le pouvoir d'achat, c'est aussi, bien sûr, la revalorisation de nos retraites et les pensions de réversion. Le pouvoir d'achat, c'est aussi pour notre jeunesse, pour qu'elle vive mieux, notamment les étudiants. Le pouvoir d'achat, c'est aussi la baisse des taxes sur l'énergie, sur l'essence, sur l'électricité. C'est beaucoup de sujets. Je trouve que notre pouvoir d'achat s'est considérablement dégradé depuis plusieurs années, et je pense que c'est le sujet, à mon avis, prioritaire pour ce futur prochain mandat. Vous avez vu que l'inflation est à la hausse depuis le mois de mai, à plus de 5,2%. C'est un sommet qu'on n'a jamais atteint depuis au moins septembre 85. Et puis le deuxième sujet, c'est, vous savez, j'ai été élu le premier député, le meilleur défenseur dans les Yvelines, parmi mes collègues députés, des contribuables, des impôts, de la baisse des impôts et des contribuables. Et je pense que c'est le deuxième sujet sur lequel je me battrai, c'est-à-dire, je l'ai dit, le pouvoir d'achat, mais également la défense des contribuables, qui est un sujet très très important, et comment on répartit notre dépense sociale, par exemple, qui est astronomique en France, et la dépense hospitalière aussi, pour des résultats qui sont quand même assez moyens. Vous savez qu'en France, on a 87 infirmiers ou infirmières pour 10 000 habitants, on en a 176 en Allemagne pour 10 000 habitants, avec la même somme dépensée. Donc il y a des sujets importants à voir, et puis bien d'autres, bien sûr, l'école de la République, la sécurité, l'autorité, le respect de l'autorité, également l'application des peines, qui n'est pas forcément un sujet bien appliqué en France, et puis l'environnement, le cadre de vie, sont des sujets extrêmement importants. Je ne suis pas pour une écologie punitive, mais je suis pour une écologie de la responsabilité. Je suis pour la filière nucléaire, par exemple, que le président a eu en partie, en même temps, abandonnée et à la fois soutenue. Donc, c'est une énergie propre et peu coûteuse, et un fleuron du génie et du talent français.
Philippe Benassaya, candidat de la droite et du centre dans la 11e circonscription des Yvelines pour les prochaines législatives, dont le premier tour aura lieu dimanche prochain. Il répondait à Loïc Barrière. Le dossier nucléaire iranien, les ministres des Affaires étrangères des États-Unis, de la France, du Royaume-Uni et de l'Allemagne ont fait adopter une résolution qui rappelle formellement à l'ordre Téhéran, et cela sur fond d'impasse dans les négociations pour sauver l'accord de 2015. Ces pays ont exhorté l'Iran à respecter ses obligations juridiques et à coopérer avec l'AIEA. L'Iran avait débranché un peu plus tôt des caméras de surveillance installées par l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'Iran qui a dénoncé une initiative non constructive. L'Algérie suspend un traité d'amitié de bon voisinage et de coopération conclu avec l'Espagne, décision après le revirement de Madrid sur le dossier du Sahara occidental. Le traité prévoyait le renforcement du dialogue politique entre les deux pays à tous les niveaux, mais aussi le développement de la coopération dans les domaines économiques, financiers, éducatifs et de la défense. Ce sera samedi prochain à 21h à l'hôtel La Louisiane, dans le 6e arrondissement de Paris, rue de Seine. La chanteuse, poétesse et peintre Sappho lira aujourd'hui Journal au bord, un recueil de poésie aux éditions Bruno Doucet. Entretien avec Sappho.
J'ai fait pas mal de lectures avec ce livre, mais j'en ai fait une seule à Paris, en fait, au début, à la sortie du livre, et c'était à la Maison de la Poésie. Et là, je m'en réjouis de le faire une fois complètement dans Paris. Et parce que aussi avec le temps, la lecture devient presque aussi une performance. Alors certains poètes en sont attristés parce qu'ils estiment que un poème, ça se lit sur la page. Et moi, je pense que le poème, c'est les deux. C'est-à-dire qu'il faut qu'il se tienne sur une page, évidemment, sans l'intervention de l'auteur. Mais ça peut être aussi une relecture. Et puis, dans la mesure où c'est l'auteur, je pense que ça peut être intéressant pour le lecteur d'entendre la voix de l'auteur, ce qu'il en fait, et dans mon cas, ça devient aussi, il y a une part de performance, mais je suis pas du tout un performeur, hein, je parce que vous savez qu'il y a des tas de religions dans la poésie contemporaine, et je ne fais pas partie des performeurs, voilà.
Cette lecture à Paris, compte tenu du sujet de cet ouvrage, cela a une tonalité particulière pour vous, une émotion particulière?
Ce qui est d'amusant et d'intéressant et de beau, finalement, c'est que quand la poésie s'attaque à un sujet, il y a quelque chose d'intemporel. Ça parle du temps, ça parle de 24 heures, ça s'appelle aujourd'hui les 24 heures d'un aujourd'hui, comme ça, imaginé, mais qui est plein des rumeurs du monde. Et aujourd'hui, c'est un temps de guerre, ici, en Europe. Et ça a toujours été un temps de guerre dans le monde, mais il est vécu aujourd'hui plus de manière plus exacerbée, et alors mon livre parle aussi de la guerre, bien sûr, parce que ça parle de tout ce qui arrive, mais simplement, c'est vrai que la langue poétique, c'est une langue, je le dis, je le redis souvent, subversive, parce qu'elle ne parle pas comme tout le monde, c'est le contraire de la langue de bois, c'est une langue qu'on casse, qu'on fracasse, et qui parle tout de même, et justement, ça ne juge pas, ça n'idéologise pas, ça dit des choses Et c'est pour ça que ça tient, en fait, sur la durée, ça, et me semble-t-il.
Et cela parle notamment des attentats du 13 novembre 2015 à voilà. Paris et à Saint-Denis.
Exactement, mais bien sûr, ça parle de ça, ça parle aussi de la guerre, ça parle de mes passages au Moyen-Orient, parce qu'il m'est arrivé combien de fois de militer pour la paix, entre guillemets. En sachant combien c'est désespéré, mais je crois qu'il faut s'attaquer aux causes désespérées. Je crois toujours qu'il faut ne pas désespérer, même si tout vous contraint à le faire, si vous voulez. Je pense que de toute façon, vivre, c'est tout de même espérer malgré ce qui vous désespère.
C'est une lecture qui se déroulera à l'hôtel La Louisiane, dans le 6e arrondissement de Paris. Telle lecture dans cet hôtel, avec cet aspect intime, cela a une signification aussi.
Ça a beaucoup de sens pour moi. Je sais qu'Albert Cossery, la dernière demeure d'Albert Cossery était la Louisiane. La Louisiane est habitée par le passage de beaucoup d'artistes, de Juliette Gréco, de Miles Davis, de beaucoup de gens. C'est effectivement notre Chelsea Hotel, j'ai l'impression. Et ça a beaucoup de sens pour moi de le faire là, dans cet endroit intime, avec une proximité avec les gens. C'est encore, à chaque fois, je pense, à chaque fois que la distance qu'il peut y avoir est intéressante, qu'elle soit grande ou petite, dans l'acte de parler ou de chanter, ou parce que probablement je ferai une chanson quand même, sinon les gens peuvent être un peu frustrés, mais bon, c'est vraiment symbolique. Mais et puis de toute façon, il y a quelque chose d'opératique dans la façon de le dire. Voilà, je me réjouis d'être à la Louisiane, rue de Seine. Oui, c'est le cœur de Paris, et Paris, c'est le cœur du monde.
Un endroit à la fois intime et mythique, vous l'avez souligné.
Oui, je me réjouis de venir ce samedi le faire. Et ce qui m'a beaucoup, beaucoup touché, il m'est arrivé donc de faire des concerts, et les concerts, dans les concerts, quand les gens applaudissent très fort et tout, on pense, enfin, il y a un côté logique, parce que la musique est immédiate. La musique, c'est un art immédiat qui parle au corps. Et la poésie, on pourrait penser comme ça que c'est plus aride ou plus difficile. Et quand j'ai pu voir que j'ai eu parfois des réactions aussi fortes que pour un concert, ça m'a enchanté. Avec de la poésie, voilà. C'est très important pour moi que ça s'adresse, bien sûr, à l'esprit, mais aussi au corps. C'est un langage du corps aussi.
La poésie qui est aussi festive.
Voilà. Mais bon, voilà, on passe par toutes les humeurs dans la poésie, de toute façon. Hein. Ça, c'est la gravité, la légèreté, l'humour, etc. On passe partout. Les humeurs de la vie, et ça dépend évidemment comment on écrit. Hein. Il y a des gens qui sont dans un mode. Moi, je passe dans des tas d'humeurs, parce que de toute façon, je ne peux pas faire autrement. Étant donné mes cultures les plus diverses, et je suis dans une double injonction d'être à la fois dans le flux oriental, vous savez, dans le côté un peu épique, et en même temps dans la tenue française, c'est-à-dire que dans l'espèce de retenue. Je suis entre ces deux injonctions, et il faut tenir là-dedans.
La chanteuse, poétesse et peintre Sappho, qui lira aujourd'hui Journal au bord, samedi prochain à 21h à l'hôtel La Louisiane à Paris, dans le 6e arrondissement. Le préfet de police de Paris reconnaît un échec près de 2 semaines après les incidents et les violences survenues au Stade de France à Saint-Denis. C'était lors de la finale de la Ligue des Champions le 28 mai dernier. Didier Lallement, auditionné devant le Sénat, souligne que la gestion policière autour de cette finale était à l'évidence un échec. Célébrer Beyrouth et sa communauté créative, l'objet de la soirée No Jet Lag Party, ce jeudi soir à Paris. Cela débute à 19h, rue du Verbois, dans le 3e arrondissement de la capitale. Événement organisé par Kilomètre Paris. Alexandra Sénès, pilote de la marque Kilomètre Paris.
Nous célébrons le Liban. Je pilote une marque qui s'appelle Kilomètre Paris, qui déplace les frontières, téléporte les gens. On brode sur des chemises des voyages. Et on essaie de broder des lieux qui sont pas Saint-Tropez, pas Mykonos, pas Ibiza. On essaye d'être un peu hors-piste. Beyrouth n'est pas un hors-piste, mais qui on brode Beyrouth, on va pas forcément broder Jemaisé. On aime bien raconter des histoires de voyage sur nos chemises. Mais on va encore plus loin. On essaye de dépayser nos voyageurs, en fait, nos clients, Et on a une boutique dans un quartier qui est aussi un peu hors-piste, qui est à une rue du Marais, qui est un tout petit peu excentré, alors que c'est au centre de Paris, et on fait des événements. Et cet événement, c'est le premier d'une série. Il s'appelle donc No Jet Lag Party. L'idée, c'est, en venant ici, on se prend un décalage horaire sans bouger, sans avoir à prendre un billet pour Beyrouth. On vient, on va être téléporté à Beyrouth ce soir.
C'est un voyage qui permet de découvrir la création libanaise.
Exactement. En fait, je suis tombée amoureuse d'une initiative qui s'appelle Creative Space Beyrouth. C'est une femme qui s'appelle Sarah, et enfin ses trois fondateurs, qui m'ont présenté leur école, qui est une école gratuite à Beyrouth, et j'ai eu envie de faire un projet avec eux.
Et c'est important de mettre en lumière la beauté, cette beauté, parallèlement à la crise que vit ce pays.
Exactement. Moi, je suis très amoureuse du Liban. J'ai été beaucoup, beaucoup à Beyrouth, et je sais qu'il y a quand même des gens créatifs, des gens qui continuent à créer, ou à écrire, ou à photographier, et donc j'ai invité dans notre boutique et en fait même dans le quartier, puisque j'ai hacké trois endroits. Donc c'est à la fois dans la boutique Kilomètre Paris, à la fois dans une petite boutique qui est vide à côté de chez nous où on a pris les clés, chez le libraire et chez nos voisins d'en face. Et donc non seulement on va célébrer CSB, Creative Space Beyrouth, cette école avec laquelle on a fait un projet, mais on va célébrer aussi trois écrivaines, une femme qui s'appelle Diane Masloum, qui a écrit un livre qui s'appelle Le Musée National, qui est d'une Libanaise parisienne, Lamia Ziadeh, qui dessine en fait, et qui a écrit plusieurs livres, dont Mon port de Beyrouth, Ma très grande mélancolie arabe, et une troisième auteure qui s'appelle Zeina Abi Rached, qui est aussi illustratrice franco-libanaise, et qui vient signer Le jeu des hirondelles, Je me souviens de Beyrouth, etc. Donc avec ces trois femmes, c'est déjà un énorme plongeon dans la littérature franco-libanaise. Et dans la boutique d'à côté, on a invité un photographe, Gilbert Hage, qui fait un projet qui nous plaisait, qui s'appelle It's a Wonderful World. Et on va vendre ses photos, on va être très 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 aux couleurs du Liban.
Alexandra Sénès, pilote de la marque Kilomètre Paris. Les qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations 2023, après sa victoire face à l'Ouganda lors de la première journée, l'Algérie s'est imposée en Tanzanie pour la deuxième journée du groupe F, une victoire 2-0. Les Verts font ainsi un grand pas vers la qualification. Fin de cette édition, vous êtes bien sur Radio Orient, et si on en parlait à 19h et 23h, le thème de cette émission, les quartiers pauvres ont de l'avenir, idées reçues et propositions. Alexis Bachelet recevra Cathy Bontinck, première adjointe au maire de Saint-Denis, vice-présidente de Pleine Commune, et Hakim El Karoui, entrepreneur, essayiste, rapporteur de l'Institut Montaigne sur le rapport Les quartiers pauvres ont de l'avenir. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient, et un très grand merci pour votre fidélité.